Du pain sur la table.
Dialogue autour de l'Évangile avec André Choquette
et Georges Convert.
Évangile de Jésus selon l'écrit de Luc. Texte de la liturgie catholique pour le quatrième dimanche de l'Avent. Au sixième mois, le messager divin Gabriel est envoyé de la part de Dieu vers une ville de la Galilée du nom de Nazareth, auprès d'une jeune fille vierge, promise en mariage à un homme du nom de Joseph de la maison de David. Et le nom de la jeune vierge est Marie. Il entre et lui dit
« Réjouis-toi, gracié de Dieu, le Seigneur Dieu est avec toi. »
À cette parole, elle est fort troublée. Elle se demande quel peut être le sens de cette salutation. Le messager divin lui dit
« Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici qu'en ton sein, tu concevras et enfanteras un fils, et tu l'appelleras de son nom Jésus. Celui-ci sera grand, et il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la maison de Jacob pour l'éternité, et son règne sera sans fin. »
Marie dit alors au messager divin,
« Comment cela sera-t-il, puisque je n'ai pas de relation avec aucun homme ?»
Le messager divin lui répond,
« Le souffle sacré viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Ainsi, celui qui naîtra de toi sera saint et appelé Fils de Dieu. » Vois, Élisabeth, ta parente, elle aussi a conçu un fils en son vieil âge, et ce mois est le sixième pour celle qu'on appelait la stérile, car tout ordre de Dieu s'accomplit avec puissance.
Marie dit alors,
voici la servante du Seigneur, qu'il en soit pour moi selon ce que tu as prescrit.
Et le messager divin s'éloigne d'elle.
Chers auditeurs et auditrices, bonjour. Bonjour André.
Bonjour Georges.
Oh, combien de peintres ont tenté de rendre sur la toile le mystère de cette scène. Et pourtant, il ne faudrait pas lire ce récit comme un article de journal. La description du lieu et des personnages est en effet, on ne peut plus sobre. C'est que toute page d'évangile est écrite d'abord pour nous dire quelque chose sur Dieu. Il nous faut donc faire taire notre besoin de visualiser les personnes décrites pour mieux saisir la profondeur de ce qu'elles vivent en présence du Seigneur Dieu.
Dans quel contexte s'inscrit ce récit ?
Eh bien, cette page est tirée des deux premiers chapitres de Luc qui forment comme le prologue de son récit évangélique. L'annonce à Marie est mise en parallèle avec l'annonce de la naissance du Baptiste. Si les deux annonces sont faites par Gabriel, le messager divin, les lieux et l'environnement sont bien différents. Le temple de Jérusalem fait place à la maison du lieu-dit Nazareth, un petit hameau quasi inconnu. Ce n'est plus un prêtre, mais une très jeune fille qui reçoit le message. Zacharie deviendra muet en raison de son doute, alors que Marie sera envoyée aider Élisabeth en chantant son Magnificat. Viendront ensuite les récits des naissances. Jean naîtra dans la maison de ses parents, entouré des voisins et de la parenté, tandis que Marie déposera le nouveau-né Jésus dans une mangeoire avec pour seul témoin quelques bergers. Dans cet évangile, écrit par Luc, ce parallélisme entre Jean et Jésus veut sans doute montrer le rôle de Jean le Baptiste comme étant le précurseur du Messie. Tout notre texte sera pourtant centré sur Jésus, l'enfant de Marie, qui est destiné par Dieu à être le Messie de son peuple.
Quelle est précisément l'annonce faite par le messager divin ?
C'est un ange qui vient prier Marie d'être la mère du Messie. Le mot grec « angelos » qu'on a francisé en « ange » est finalement un nom de fonction qui désigne un messager de Dieu. empruntons à Olivier Clément une définition de l'ange.
L'ange exprime d'abord la dimension verticale des êtres et des choses. Les anges apparaissent chaque fois que le divin et l'humain communiquent. Ils assurent la présence, dans les êtres et dans les choses, de la parole, de la pensée et de la volonté divine.
Oui, parfois même, dans la Bible, l'ange de Dieu veut désigner Dieu lui-même. À travers ces anges, se manifeste donc la présence de Dieu, certes invisible, mais mystérieusement agissante. Ce messager vient donc annoncer de la part de Dieu la naissance d'un Messie. Alors pour bien saisir les propos de l'ange, il faut nous replonger dans l'atmosphère qui règne alors en Israël. En effet, Israël est occupé par les Romains depuis près de 100 ans. Le joug de l'occupant est supporté de plus en plus difficilement et un grand nombre de Juifs attendent avec fièvre la venue d'un Messie. On se rappelle en effet ce que Dieu a fait à travers l'histoire pour maintenir son règne sur Israël en suscitant des rois fidèles à la Torah, des rois messies. Ainsi, le prophète Nathan avait annoncé à David que sa royauté serait établie à jamais et que Dieu lui donnerait un fils qui serait un roi messie, un roi qui serait, dans le fond, comme son propre fils.
« Je te donnerai un successeur dans ta descendance et j'établirai fermement sa royauté. C'est lui qui bâtira une maison pour mon nom et j'établirai à jamais son trône royal. » Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. »
Un autre prophète, Isaïe, un peu plus tard, annonce au roi Akaz que Dieu lui donnera de sa jeune épouse un fils pour relever la dynastie davidique qui est alors chancelante.
Voici que la jeune femme est enceinte et enfante un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné, la souveraineté est sur ses épaules. Il y aura une souveraineté étendue et une paix sans fin pour le trône de David et pour sa royauté qu'il établira et affirmera sur le droit et la justice dès maintenant et pour toujours.
Eh bien, ce que Dieu a fait, ne peut-il pas encore le faire aujourd'hui et ne va-t-il pas le faire pour sauver Israël? Marie était bien familière avec ces textes et c'est donc avec les mots mêmes de ces textes que va parler le messager divin.
Voici quand ton sein tu concevras et enfanteras un fils et tu l'appelleras de son nom Jésus. Celui-ci sera grand et il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son ancêtre. Il régnera sur la maison de Jacob pour l'éternité et son règne sera sans fin. Ainsi celui qui naîtra de toi sera saint et appelé fils de Dieu.
On trouve des expressions analogues dans un document de Qumran, Qumran qui est ce monastère essénien du temps de Jésus, où l'attente du Messie était particulièrement intense. On y lit « Son fils sera grand sur la terre, fils de Dieu il sera dit, et fils du Très-Haut il sera appelé. » Voilà donc le message qui est donné au nom du Seigneur Dieu. Marie sera mère et son fils aura une mission divine à accomplir, celle d'un Messie. En ce temps où la maison de David est de nouveau en ruine, c'est donc avec celui qu'elle va mettre au monde que Dieu va reconstruire son peuple. Le signe que cette naissance est bénie de Dieu lui est donné dans la fécondité extraordinaire d'Élisabeth, la vieille femme stérile. Ce que la parole de Dieu accomplit dans cette femme qu'est Élisabeth est le gage de ce que la parole divine va accomplir dans l'humble jeune fille.
Que signifient ces titres « Fils du Très-Haut », « Fils de Dieu » ?
Eh bien, ils ont un sens beaucoup plus large que celui que les communautés chrétiennes leur donneront plus tard à travers les conciles, qui vont identifier Jésus à la deuxième personne de la Trinité divine, Dieu le Fils. En Israël, depuis longtemps, on donne le titre de Fils de Dieu, de Fils du Très-Haut, à ceux qui se trouvent dans l'intimité de Dieu d'une façon particulière. Alors cela se dit bien sûr du roi Messie, qui est considéré comme le lieutenant du seul vrai roi qui est Dieu, et donc comme son fils adoptif. C'est ce que dit le psaume 2 qui a été chanté lors de l'intronisation du roi Messie.
« J'énoncerai le décret du Seigneur Dieu. Il m'a dit, « Tu es mon fils, moi aujourd'hui, je t'ai engendré. »
Mais on donne aussi ce titre aux Juifs, ce titre de fils de Dieu, aux Juifs pieux, et même à l'ensemble du peuple de Dieu. Alors donnons quelques exemples tirés des livres de l'Exode, du Deutéronome et de la Sagesse.
« Ainsi Israël est mon fils premier-né. Vous êtes des fils pour le Seigneur. Si le juste est fils de Dieu, Dieu l'assistera. »
Dans la bouche de Jésus, on trouvera aussi ce titre pour désigner ses propres disciples. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Aimez vos ennemis et vous serez les fils du Très-Haut. Et même les esprits diaboliques apostrophent Jésus en lui donnant ce titre. « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu Très-Haut ?» Pourtant, dans le cas de Jésus, cette appellation va prendre un sens très fort, car sa naissance sera l'œuvre toute particulière de l'Esprit divin. Les Juifs ont un adage qui dit qu'il y a trois acteurs dans toute procréation, le Père, la Mère et l'Esprit Saint. Eh bien, selon cette tradition juive, aucun enfant ne peut naître sans l'intervention de l'Esprit. Mais dans le cas de Jésus, l'Esprit va prendre la place du Père humain.
Marie dit alors au messager divin, « Comment cela sera-t-il, puisque je n'ai de relation avec aucun homme ?» Le messager divin lui répond, « Le souffle sacré viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. »
Voilà, le messager répond que le souffle sacré va faire œuvre divine dans la personne humaine de Marie. Ce qui naîtra de toi sera saint et appelé fils de Dieu. Remarquons qu'à la Pentecôte, Luc emploiera la même formule, « Vous allez recevoir une puissance, celle de l'Esprit Saint qui viendra sur vous. » Déjà au commencement du monde, c'est l'Esprit qui, selon le livre de la Genèse, opère l'œuvre créatrice et vivifiante de Dieu.
« Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et or, la terre était vague et vide, les ténèbres couvraient l'abîme. » L'Esprit de Dieu planait sur les eaux.
Dans ce texte, la présence de Dieu est décrite comme celle de l'oiseau qui couvre de ses ailes la vie qu'il a créée et qu'il va faire éclore. À l'Annonciation, le messager dit que l'Esprit Saint de Dieu va couvrir Marie, qu'il va l'envelopper de sa présence et qu'ainsi l'Esprit va produire la vie dans le sein de Marie. Ce que le souffle Saint Créateur a accompli dans la mise au monde d'Adam, il va le faire à nouveau dans le sein de Marie, en y mettant au monde le nouvel Adam, Jésus. Et cette présence de l'Esprit qui vient couvrir Marie peut encore être comparée à celle de la nuée lors de l'Exode.
La nuée couvrit la tente de réunion, et la gloire du Seigneur remplit la demeure.
Ainsi, de même que la nuée lumineuse couvre la tente de réunion, qui devient ainsi le tabernacle de la présence de Dieu, de même, l'ombre du Très-Haut couvre Marie, qui devient la demeure dans laquelle vient habiter le Fils bien-aimé du Père. La suite du récit évangélique traduira le caractère unique de ce Fils de Dieu qu'est Jésus. Il est bon de relire quelques-unes des phrases de Jésus qui illustreront magnifiquement ce que Luc nous dit de sa naissance. Une naissance qui est l'œuvre toute particulière de l'Esprit. Cet enfant est un humain, certes, comme chacun et chacune de nous, mais il appartient à Dieu, il est engendré de Dieu d'une manière unique.
C'est que nul n'a vu le Père, si ce n'est celui qui vient de Dieu. Lui, il a vu le Père. C'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de mon propre chef, c'est lui qui m'a envoyé.
Le Père aime le Fils, il a tout remis en sa main. Le Fils ne peut rien faire de lui-même qu'il ne voit faire au Père.
Moi et le Père, nous sommes un. Je suis le chemin et la vérité et la vie. Personne ne va au Père si ce n'est par moi. Celui qui m'a vu a vu le Père. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. C'est le Père qui, demeurant en moi, accomplit ses propres œuvres. Quel est le rôle de Marie dans cette naissance exceptionnelle?
Comment cela va-t-il se faire puisque je n'ai pas de relation avec un homme? Eh bien, pour mieux comprendre la question de Marie, il est bon de connaître les coutumes de ce temps. Écoutons la description qui en est faite par Charles Perrault.
Le mariage s'effectuait en deux temps. Après l'engagement mutuel qui liait juridiquement les époux, l'épouse restait sous le toit paternel durant une année environ, jusqu'au jour où l'époux prenait chez lui son épouse pour mener vie commune. Durant l'année où l'épouse restait encore sous le pouvoir de son père, les relations conjugales n'étaient généralement pas admises, du moins en Galilée. N'oublions pas que les filles se mariaient, ou plutôt étaient mariées, entre 12 et 15 ans, et les garçons n'étaient guère plus vieux. Joseph était un jeune homme.
Marie est certes la promise de Joseph, mais ils ne font pas encore vie commune. Si Marie va devenir mère, ce sera en acceptant d'être fécondée par l'Esprit divin pour enfanter le Messie du peuple de Dieu. Et Marie est invitée par l'ange à se réjouir. Là encore, l'ange reprend des mots de la Bible. Écoutons ce que nous trouvons dans le livre de Sophonie, où il annonce la joie pour le peuple qui est surnommé « Fille de Sion », un nom qui sera donné aussi à Marie.
Pousse des cris de joie, fille de Sion, une clameur d'allégresse Israël. Réjouis-toi, triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem. Le Seigneur ton Dieu est au milieu de toi.
Marie est invitée à la même joie que naguère Jérusalem, et pour le même motif, le Seigneur est avec toi. Dans l'un et l'autre cas, la naissance d'un Messie, depuis longtemps promise, va maintenant s'accomplir.
Pourquoi Dieu a-t-il choisi Marie ?
Mais remarquons-le bien. Dieu ne choisit pas Marie en raison de ses qualités et de ses vertus. Cette joie est accordée à Marie par le libre choix de Dieu. Réjouis-toi, graciée, le Seigneur est avec toi. L'œuvre de Dieu en Marie est le fruit de la bonté toute gratuite du Seigneur. C'est la bonté généreuse de Dieu, la grâce, qui va transformer Marie. Elle la rend graciée, comblée de grâce. Ainsi, ce mot « graciée », « comblée de grâce » devient comme le surnom qui va décrire Marie. Et pourtant, cette grâce de Dieu ne transforme pas Marie sans son consentement, sans son engagement, sans sa liberté. Le « oui » de Marie sera essentiel à l'accueil de cette gratuité d'amour de Dieu. La naissance de Jésus va donc être tout ensemble le fruit de la gratuité infinie de l'amour éternel et le fruit de l'amour unique de l'humble servante envers son Seigneur Dieu. Voici la servante du Seigneur, qu'il en soit pour moi selon ce que tu as prescrit. C'est le fiat. Et le Coran lui-même, le livre de la foi de l'islam, traduit cette pensée.
Ô Marie, Dieu t'annonce la bonne nouvelle d'une parole venant de lui. Son nom sera le Messie, Jésus, fils de Marie, un de ceux qui s'approchent de Dieu. « Mon Seigneur, dit-elle, comment aurais-je un enfant alors qu'aucun humain ne m'a touché ?»« Comment cela ? Dieu crée ce qu'il veut. S'il décrète une affaire, il suffit qu'il lui dise « Sois et elle est. »
Cet instant où Marie va prononcer son fiat est un moment unique de l'histoire. Le projet de Dieu d'établir une communion exceptionnelle entre lui et l'humanité est, pour ainsi dire, suspendu à ce consentement de Marie. Moment unique où s'accomplit le dessein mystérieux de Dieu. Marie accueille la parole de Dieu qui fécondera sa personne, engendrant dans sa chair Jésus, le Fils qui est divin. En cet instant, grâce au oui de Marie, l'ordre de Dieu s'accomplit avec puissance. Écoutons ce qu'en dit le chantre de la Vierge, le moine cistercien Bernard de Clairvaux.
Ne tarde plus, Vierge Marie, donne ta réponse. Ô Notre-Dame, prononce-la, cette parole que la terre, les enfers, les cieux même attendent. Vois, le roi et seigneur de l'univers, lui qui a désiré ta beauté, désire avec non moins d'ardeur le oui de ta réponse. À ton consentement, il a voulu suspendre le salut du monde. Voici que lui-même de là-haut t'interpelle. Ô la plus belle des femmes, fais-moi entendre ta voix. Oui, réponds vite à l'ange, ou plutôt par l'ange au Seigneur. Réponds une parole et conçois le Verbe divin. Et mets une parole passagère, étreins le Verbe éternel. En quoi sommes-nous concernés, nous disciples de Jésus d'aujourd'hui?
Avant de mourir sur la croix, Jésus va confier sa mère à celui qui était son appreneur préféré, le disciple modèle.
Voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, Jésus dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. »
Notons bien qu'en cet endroit, le nom du disciple n'est pas donné. Peut-être pour faire de lui le représentant des disciples de tous les temps. Oui, tout disciple de Jésus a donc Marie pour mère. Et le récit se poursuit en disant que dès lors, tout est accompli et que Jésus peut livrer son esprit. Par ce rapprochement, ne peut-on comprendre que c'est l'esprit de Jésus qui va collaborer avec Marie pour enfanter son disciple comme fils et fille du Père. Écoutons le commentaire de M. Feuillet, un sulpicien.
En tant que mère de Jésus et de ses disciples, Marie est intimement liée à l'Esprit. La mère est chargée de donner la vie en mettant des enfants au monde et d'éduquer ses enfants. L'Esprit joue ce double rôle. Il est en premier lieu principe de vie au baptême. Il est le maître intérieur, il instruit au-dedans. C'est l'Esprit qui inspire aux chrétiens les sentiments filiaux de Jésus et leur fait reconnaître comme étant le vrai Père, le Père même de Jésus. L'Esprit est présent partout où se manifeste l'action de la Vierge Marie.
Ce qui va faire de Marie un modèle pour le disciple de Jésus, c'est surtout sa disponibilité à la parole divine. En Luc, on nous dit par plusieurs fois que Marie retenait et méditait toute parole de Dieu dans son cœur. Elle peut donc aider le disciple de Jésus à savoir écouter la parole de l'Évangile, à la faire sienne dans le silence intérieur et à laisser le souffle saint donner chair à la parole divine en sa propre vie afin que sa vie soit témoin de Dieu par les gestes d'amour qu'il posera. En effet, comme Marie a accueilli en son sein la parole de Dieu incarnée en Jésus, ainsi, par l'écoute de l'Évangile, tout disciple accueille en lui la parole de Dieu. Une parole qui veut se traduire en gestes, en actes, dans sa vie quotidienne, par la force de l'Esprit-Saint. Alors, incarnant dans tout notre être, dans nos gènes spirituels, la parole divine, nous devenons le Christ, nous devenons membres de l'unique corps du Christ.
Vous êtes le corps du Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Il est, lui, la tête du corps, qui est l'Église. Il est le commencement, premier-né d'entre les morts, afin de tenir en tout, lui, le premier rang.
Comme Marie, par l'Esprit, nous devenons capables d'aimer divinement, c'est-à-dire de bonté généreuse. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux, dira Jésus. Et écoutons ce que dit l'apôtre Paul aux chrétiens de Rome. Tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. L'Esprit que vous avez reçu ne fait pas de vous des esclaves, des gens qui ont encore peur. C'est un Esprit qui fait de vous des fils. Poussés par cet Esprit, nous crions vers le Père en l'appelant Abba, Papa.
Aujourd'hui, Dieu se révèle-t-il encore à nous par des anges?
Oui, Dieu choisit encore de nous parler, de nous visiter à travers des messagers. Des messagers qui sont le plus souvent, eh bien, ceux et celles qui nous entourent dans notre vie quotidienne. Encore faut-il que nous soyons éveillés à cette visite de Dieu, attentifs à son passage. Écoutons ce qui est arrivé à cette psychologue, Marie de Henzel, qui va recevoir la vie de celle qu'elle visite dans sa chambre d'hôpital.
Une vieille dame de 92 ans est en train de mourir, sereinement. Me prenant les mains, elle me dit « Mon enfant, la vie se donne à ceux qui la prennent à bras le corps. N'ayez peur de rien, vivez. Vivez tout ce qui se présente, car tout est don de Dieu. » Il y a de la passion, de la flamme dans cet ultime message de vie. Je suis de passage dans cette chambre, presque une inconnue, et voilà que cette vieille dame mourante me destine cette parole de vie. Je suis sorti de la chambre avec une forte envie de vivre et d'aimer. J'ai le sentiment que cette vieille femme vient de souffler de toutes ses forces, de toutes ses dernières forces, sur ma propre flamme de vie. Un cadeau inattendu.
Devenu fils, fille de Dieu dans l'unique Christ, le disciple pourra alors partager la joie promise à Marie. Réjouis-toi. Oui, car c'est là que se trouve la source de la véritable joie. N'allons pas en chercher ailleurs. Nous sommes fils, filles du Père qui est Dieu. Nous sommes promis à vivre d'amour divin pour une vie immortelle. Et voilà aussi quelle est la mission du chrétien en ce monde, être témoin de cette incroyable filiation divine opérée par l'Esprit et en être témoin par la vie et la joie que Dieu met en nos cœurs. Mission du chrétien, ou plus justement mission de l'Église, ainsi que le disait Georges Bernanos dans le journal d'un curé de campagne.
Tiens, je vais te définir un peuple chrétien par son contraire. Le contraire d'un peuple chrétien, c'est un peuple triste, un peuple de vieux. C'est du sentiment de sa propre impuissance que l'enfant tire humblement le principe même de sa joie. Il s'en rapporte à sa mère, comprends-tu? Présent, passé, avenir, toute sa vie, la vie entière tient dans un regard, et ce regard est un sourire. Eh bien, si on nous avait laissé faire, nous autres, l'Église eût donné aux hommes cette espèce de sécurité souveraine. Retiens que chacun n'en aurait pas moins eu sa part d'embêtement. La faim, la soif, la pauvreté, la jalousie. Nous ne serons jamais assez forts pour mettre le diable dans notre poche. Mais l'homme se serait su le Fils de Dieu, voilà le miracle. Il aurait vécu, il serait mort avec cette idée dans la caboche, et non pas une idée apprise seulement dans les livres, non. Or, l'Église, un peuple, sera toujours un peuple de bâtards, un peuple d'enfants trouvés. L'Église a été chargée par le bon Dieu de maintenir dans le monde cet esprit d'enfance, cette ingénuité, cette fraîcheur. L'Église dispose de la joie, de toute la part de joie réservée à ce triste monde. Ce que vous avez fait contre elle, vous l'avez fait contre la joie.
C'était Du pain sur la table, une émission de l'École de la foi et du Catéchuméda de Montréal. Si vous désirez le texte de l'émission ou la cassette audio, téléphonez au numéro 514-254-8750.
Du pain sur la table est diffusé le samedi à 8h30 et à 23h. Choix musical et enregistrement, Jean Béduchaud.
Chers auditeurs et auditrices, à la semaine prochaine, ne laissons pas le pain sur la table sans en faire notre nourriture.